Aujourd'hui, dans ce carnet de bord, je vais vous faire le point sur quelques réflexions personnelles, sur des tendances, sur ce que je fais, sur des étonnements aussi. Vous savez, l'objet de ces épisodes carnet de bord, c'est de faire un bilan, de vous montrer les coulisses de création de contenu, d'un créateur de contenu comme je suis, les stratégies que je mets en place. Je ne fais pas de script, j'ai juste listé quelques points que je veux aborder et qui me semblent intéressants pour vous. Nous allons donc parler de développement de mes podcasts, de stratégies que j'utilise, d'un étonnement aussi, puis de deux outils que je vois un peu plus passer depuis quelques jours, et puis de deux questions fondamentales sur mon activité. Et certains vont dire « Encore !» Eh oui, encore. Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs et des Longues. Entreprendre à 40 ans, c'est possible, même sur Internet, même en tant que créateur de contenu, même si vous avez été salarié pendant tout le début de votre carrière, bah moi c'était mon cas, et même si on nous dit que c'est réservé aux jeunes, bah oui, parce que les jeunes, pour eux, ça semble naturel, et si nous, on avait envie, nous aussi, de faire du contenu sur Internet, d'entreprendre, et bah oui, on nous a fait comprendre, on nous fait comprendre parfois que nous sommes foutus, qu'on n'y comprend pas grand-chose dans ces domaines-là, et pourtant, on a notre place, et c'est ce que je veux vous aider à prendre, prendre votre place, si vous avez envie de créer du contenu sur Internet, si vous avez envie de développer des podcasts, une chaîne YouTube ou je ne sais quel autre contenu, si vous avez envie d'en faire une activité annexe, un side business, ou si vous avez envie d'en faire votre activité principale, eh ben je suis là justement avec mes conseils, mes réflexions sur le marketing, l'entrepreneuriat, l'organisation, l'état d'esprit, la forme, la santé aussi, même si j'en parle un petit peu moins ici. Justement pour vous aider avec la vision que je peux avoir et ce que je fais moi en me disant que ça peut vous servir, vous donner des pistes pour avancer vous aussi de votre côté. Aujourd'hui donc c'est un épisode carnet de bord, voilà, vous savez bien j'aime bien ces épisodes carnet de bord, je sais que statistiquement aussi ce sont les épisodes qui marchent le mieux, les épisodes carnet de bord. Je le répète, je ne fais qu'une petite liste des quelques sujets que je veux aborder, donc j'ai pas détaillé, je scripte pas ou quoi que ce soit, parce que sinon on m'y mettrait des heures à préparer tout ça, donc c'est pas la peine. Non, l'idée c'est de refaire un point un petit peu sur certains aspects et j'ai fait une petite liste. Alors, le premier point de ma liste, c'est de faire le point sur mon objectif des 100 000 téléchargements pour Kilomètre 42. Je rappelle que c'est un objectif d'atteindre des 100 000 téléchargements par mois. Kilomètre 42 est un podcast qui a dépassé très largement le million d'écoutes, qui file plutôt vers les 2 millions actuellement. Le but du jeu, c'est de passer les 2 millions beaucoup plus rapidement et de passer le cap des 100 000. Donc c'est un objectif que je me suis donné, qui est difficile à atteindre mais qui n'est pas irréalisable, c'est le principe des objectifs. Ce mois-ci, les 30 derniers jours, l'audience est en hausse de 38%. C'est bien, c'est rassurant parce qu'il y avait eu un gros trou d'air sur la fin d'année qui venait que j'ai publié moins d'épisodes, qui venait aussi qu'il y avait moins de personnes connectées, les vacances c'était un peu plus compliqué. Et donc là, il y a un gros retour, 38%. Je reviens dans des eaux qui sont un peu plus satisfaisantes, même si elles sont un peu en retard par rapport au volume d'audience que j'avais l'an dernier. Bah oui, parce qu'il y avait un trou et qui s'explique aussi par des changements de format. Alors, si vous écoutez pas Kilomètre 42, je vais pas vous refaire le détail. Si vous écoutez Kilomètre 42, vous voyez à peu près de quoi je parle, sur quel type d'épisode. J'ai eu un gros truc là qui s'est passé, un changement des changements de format et autres, avec des épisodes qui marchaient très très bien. Et puis, il faut relancer la machine. Et bon, là je suis content parce que l'audience est en hausse de 38%. Et notamment, il y a un truc, je vous avais dit, que j'ai refait, qui était important pour moi, c'est que j'ai revu mes intros, la première minute 30, à peu près, voilà, première minute 30. Donc ça veut dire quoi? J'ai revu toute partie au départ, et comme j'ai fait là aujourd'hui, sur de quoi je vais parler dans l'épisode, puis ensuite la présentation. Alors, sur ce podcast-là, Cheveux Blancs et des Longues, l'intro, elle est un peu bancale parce que je la fais beaucoup plus rapidement. Sur Kilomètre 42, c'est une intro que je travaille plus. En fait, c'est le cœur de ce que je travaille quasiment le plus désormais. Et j'ai vu du mieux, en fait, sur les épisodes solo, sur un critère, et qui est le critère que je recherchais à améliorer, qui est le taux de rétention de l'épisode. Ça peut paraître totalement paradoxal, le taux de rétention d'un épisode dépend beaucoup de la première minute, ou des deux premières minutes. Pourquoi ? Parce que vous êtes ici, voilà à quoi vous servir cet épisode, qu'est-ce que vous allez apprendre, pourquoi vous devriez l'écouter jusqu'au bout. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait dans cet épisode, vous en avez vu un petit peu la trame. C'est en fait ce qu'il faudrait faire quasiment dans tous les contenus, un cheminement qui est assez simple, c'est de quoi je vais parler, et puis sur quoi on enchaîne ensuite. Voilà, ce fonctionnement un petit peu comme ça. On peut le faire dans un épisode de podcast. On peut le faire aussi, hein, carrément dans des, ça pourrait être des sous-morceaux des épisodes de podcast, etc. Bref, c'est un peu je vais pas le détailler complètement ici, parce que sinon ça serait très long, mais en tout cas, c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Alors, sur les épisodes solo, le taux de rétention a augmenté. Vraiment, il a augmenté. Je le vois, il y a toujours, toujours un creux dans les premières secondes, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc, ça démarre à 100%, puis ça baisse très vite. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai vu des cours de podcast, pour tout le monde c'est comme ça, ça part très très vite, alors que pourtant il y a eu que quelques secondes, c'est un peu étrange, mais d'un côté je le fais aussi, parce que quand j'entends la voix de certains podcasteurs que je suis en train d'écouter, je dis « ah bah non, j'écouterai ça plus tard ». Donc je me dis qu'il doit y avoir une histoire dans ce type-là, pour l'instant j'observe, mais ce qui se passe c'est qu'une fois que les personnes, vous en audience, vous avez commencé à écouter, en général ça va beaucoup plus loin, et ça c'est un point qui est important, parce que des fois ce qu'on met tout à la fin, vous savez, ce sont les appels à l'action sur « j'ai une formation en ligne, j'ai des choses comme ça ». Alors, bien sûr, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres choses à faire pour mieux placer ces appels d'action qui sont sur les produits de vente, les choses comme ça, les mettre plus au début puisque c'est là où il y a le plus d'audience. Mais il y a un mix en fait, il y a vraiment un mix à trouver pour arriver à trouver le bon équilibre. En attendant, pourquoi c'est important pour moi d'augmenter le taux de rétention ? Parce que quelqu'un qui trouve que l'épisode est intéressant dans sa continuité, et c'est quelqu'un qui va beaucoup plus avoir de chances de s'abonner. Donc notamment pour les nouveaux auditeurs, pour ceux qui découvrent le podcast, d'arriver sur un podcast dans lequel ils savent de quoi on parle, de quoi ça a parlé, d'arriver jusqu'au bout, ils vont se dire « ça, moi j'ai envie d'en écouter d'autres parce que cet épisode m'a plu dans son intégralité, donc je vais m'abonner plus facilement pour en écouter d'autres ». Et ça, c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est moins le cas maintenant sur le taux de rétention et moins important sur les épisodes avec des invités. J'ai regardé sur tous mes podcasts, les épisodes avec les invités sont toujours beaucoup plus bas en taux de rétention, c'est-à-dire qu'il y a une chute. Alors la chute elle est variable, ça dépend des épisodes, ça dépend pas trop de la durée de l'épisode, ça dépend un petit peu des sujets, ça dépend un petit peu peut-être du rythme, je ne sais pas trop vraiment exactement, mais c'est le cas sur Kilomètre 42, c'est le cas sur Sport Nutrition, c'est le cas aussi sur ce podcast-là dans les anciennes versions, voilà, sur Kilomètre 50 aussi je crois que c'était le cas aussi. Il y a un truc, voilà, qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être, est-ce que ça vient du format? Il faudrait que je regarde aussi ce qui se passe, essayer d'avoir des stats d'autres podcasteurs, peut-être voir un petit peu ce qu'ils en pensent eux avec les taux de rétention, comment leur taux de rétention fonctionne avec des invités. En tout cas, voilà, c'est une réalité. Et puis quand je regarde ma propre pratique, c'est vrai que il y a beaucoup d'épisodes que j'ai du mal à écouter jusqu'au bout quand ce sont des épisodes avec des invités. Et ça, c'est un peu mon cas. Je vois là sur ma liste, sur mon Pocket Cast, l'outil que j'utilise pour écouter les podcasts, c'est vrai que j'ai pas mal d'épisodes avec des invités que je ne finis pas en fait. Voilà, c'est clair, je ne finis pas, je ne les écoute jamais jusqu'au bout, ou très rarement jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un constat que je fais moi, peut-être que nous fonctionnons tous de la même manière. En tout cas, j'ai repris le principe de ces nouvelles intros, donc déjà sur tous les épisodes que je suis en train de faire. J'ai modifié mes templates d'épisodes, parce que, ça je ne vous l'ai pas trop dit, mais j'ai des templates dans mon logiciel, dans Obsidian, j'ai un template pour chaque épisode, avec les intros, avec le plan et tout. Et donc en fait, je me pose des nouvelles questions au départ de l'épisode. Je remplis ces questions-là, ce qui me permet en fait de faire la trame de l'intro. En fait, voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Avec cette méthode-là, j'ai modifié donc un petit peu ces questions que je me pose pour justement caler un petit peu différemment les choses. J'ai revu aussi le texte de l'intro pour expliquer mieux de ce qu'apporte le podcast. Et dans sa globalité, je trouve que pour l'instant, ça reste plus efficace. Je vais voir un petit peu comment ça évolue. Mon prochain chantier maintenant sur cet objectif des 100K, c'est de trouver un moyen pour convertir l'audience des réseaux sociaux vers le podcast. J'ai vu le cas d'une podcasteuse l'autre jour qui avait gagné 600 écoutes sur un seul épisode via un TikTok qui est assez basique. Et franchement, quand je dis qu'elle est assez basique, c'est que c'est pas une vidéo dans laquelle elle présente quoi que ce soit ni rien. C'est trois images en fait. Voilà, il y a trois images avec une musique et donc c'est une espèce de carrousel. Vous savez, c'est carrousel, c'est une succession d'images. Là, elle l'a fait sur TikTok. Bon, sur TikTok, c'est vrai qu'on voit pas trop ce genre de format-là, et son format s'y prêtait assez bien. Et en fait, finalement, il y a deux images où il y a un truc, un même pas, enfin, c'est, y a pas de mise en forme particulière, quoi. C'est un bout de texte, en fait, hein, sur un fond d'image, une image et tout. Et puis, le troisième, c'est un appel à action en disant, bah, si vous voulez avoir, en voulant en savoir plus, cherchez mon podcast sur Spotify ou je sais pas où. Et effectivement, on voit une grosse pointe, en fait. Elle avait fait un petit bilan, elle avait fait un petit message sur les réseaux sociaux montrant qu'en fait, elle avait gagné beaucoup de personnes qui avaient écouté cet épisode-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, on peut se dire que si c'est des nouvelles personnes qui la découvrent par ce biais-là, eh ben, si ils peuvent écouter d'autres, s'ils ont aimé cet épisode-là et qu'ils s'inscrivent, qu'ils s'abonnent pour au podcast, ça peut lui faire une grosse écoute des autres épisodes. Alors après, voilà, c'est le taux de conversion, etc. On en revient sur le fameux taux de rétention, c'est-à-dire que si ensuite les gens ont trouvé cet épisode intéressant, s'ils écoutent jusqu'au bout, ils vont se dire « Ah bah tiens, j'ai envie d'écouter d'autres épisodes. » Et donc, ils peuvent s'abonner. Et à partir du moment où ils s'abonnent, en plus, il y a un côté un peu binge, écouting. J'arrive. Binge listening. Pardon. J'étais en train de chercher le mot parce que il y a binge watching sur Netflix, mais j'étais en train de chercher le mot pour le podcast. Donc, le binge écouting, on va dire... Et ben, si on est dans cette logique-là, elle peut gagner beaucoup d'audience d'un coup, en fait, hein, parce que les 600 qui arrivent, s'ils se mettent à écouter, s'ils s'abonnent, s'ils écoutent chaque épisode chaque semaine, s'ils écoutent 3-4 épisodes à chaque fois, bon, bah, ça peut se transformer finalement en milliers d'écoutes, cette histoire-là. Donc, c'est intéressant à regarder. Moi, c'était une question que je m'étais posée. J'ai testé des trucs par les stories, j'ai testé des choses par les publications, j'ai fait une vidéo de présentation d'un épisode cette semaine pour voir un petit peu comment ça pouvait faire. J'ai mis en place du mini chat, j'ai mis en place plein de choses comme ça pour convertir, pour ramener plus facilement les gens d'un point à l'autre. Mon mini chat de cette semaine, j'ai statistiquement ça a pas marché, voilà, je le dis. La vidéo a pas beaucoup marché en elle-même. Bon, voilà, il y a des trucs à tester. Il faut peut-être que je teste des formats, même d'ailleurs peut-être plus simples sur des choses. J'ai testé aussi du carrousel pour mettre en avant, mais là, c'était moins relié, c'était plus relié à la méthode SAM, moins relié à un épisode. Et en fait, c'était du recyclage d'un ancien épisode du lundi de la méthode SAM en carrousel pour finalement reprendre les informations sans relier lui-même à l'épisode. Peut-être c'était un tort, mais bon, le carrousel a pas énormément marché. Donc voilà, je suis dans ce test-là. Je pense qu'en fait, il faut toujours tester hein, les solutions. Et j'ai vu des gens qui font des choses très très bien. Alors par exemple sur de la vidéo, alors des gens qui font une intro de vidéo sur Instagram qui la publie, qui dit bah si vous voulez avoir la réponse aux questions qu'on a posées là, et ben allez voir la vidéo sur YouTube. Bah n'empêche que c'est chouette, mais je suis quand même pas allé voir la vidéo sur YouTube. Donc je sais pas à quel point ça marche. Je sais pas. Faire le lien, c'est vrai que faire sortir les gens, c'est des fois un peu compliqué. Ça dépend un petit peu aussi, je pense, le type d'épisode, un peu les types d'invités. Voilà, certains invités, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus écouter le podcast derrière. Avec d'autres invités, moins le cas. C'est une piste, hein, en tout cas, de réflexion, parce que moi, je suis à 11 300 abonnés sur Instagram. Donc j'ai un autre chantier aussi, c'est que ça reparte à la hausse parce que pour l'instant c'est assez stable, c'est-à-dire qu'il y a un jour je gagne 40 abonnés puis le lendemain j'en perds 30, donc c'est un peu cette espèce de rythme un petit peu qui est un faux rythme, qui est pas un rythme très satisfaisant, donc alors que j'avais une grosse progression à partir de l'été en fait, hein, donc il y a un truc que je suis en train de réétudier, j'ai refait mes stats, j'ai revu un peu mes taux de conversion et tout, encore que le mois de décembre a pas été si pire que ça, le mois de décembre a pas été très bon, mais le mois de janvier était meilleur, donc tout ça en fait j'ai des tableaux, j'analyse et tout, je fais un petit bilan, ça je vous en reparlerai, mais il y a une vraie question en fait, hein, c'est vraiment de dire comment mon compte Instagram peut arriver en fait à aider le podcast à être plus découvert, et puis aussi amener des gens qui ont perdu l'habitude d'écoute, par exemple, leur ramener dessus, et puis aussi, il y a autour du podcast, mais aussi autour d'autres contenus, type la newsletter, par exemple, voilà mes formations, mes programmes, les lead magnets, les produits gratuits, enfin, tous ces trucs-là. Donc là, voilà, il y a des réflexions là-dedans, dont je vous parlerai forcément de semaine en semaine. Maintenant, ça m'a amené aussi c'est à faire quelques recherches et j'ai un étonnement, mon grand étonnement du moment, parce qu'encore j'ai vu passer ça hier, une podcasteuse qui a un invité, elle est super heureuse d'avoir l'invité, ça fait 10 jours qu'elle en parle et tout, ouais j'ai eu tel invité etc, elle en parle, l'invité partage un petit peu les choses, soyons honnêtes, hein, il a fait une story le jour de l'enregistrement, il a republié une photo pour dire que c'était diffusé et tout, il met un lien, donc je pense qu'elle a un bon taux d'écoute. En revanche, avoir passé autant de temps sur cette promotion-là et elle a passé zéro temps, mais vraiment je dis zéro temps, sur la description de l'épisode, sur le texte de l'épisode, sur la texte de présentation de son épisode et même plus globalement de son podcast, de la présentation de son du texte de présentation de son podcast. Et ça, c'est mon étonnement du moment. C'est-à-dire que c'est pas la seule. Il y a énormément de podcasts, quand je regarde, sur lesquels ils ne font aucunement attention au texte de présentation de leur podcast, ils font aucunement attention au titre, il n'y a pas de copywriting pour le titre, alors qu'il devrait y en avoir un, il n'y a pas de description, pour certains il n'y a même pas de description, et pour d'autres en fait il y a une description qui est vraiment très sommaire, et en fait globalement il n'y a jamais de SEO, donc c'est-à-dire d'optimisation pour les moteurs de recherche, donc ils ne peuvent pas considérer, ils n'ont simplement pas considéré par exemple que les moteurs de recherche type Google puissent leur amener du trafic, puisqu'en fait il n'y a aucun effort qui est fait là-dessus. Est-ce que c'est la méconnaissance? Est-ce que c'est une forme un peu de paresse? Est-ce que c'est une forme de je m'en fous, m'en foutisme, je sais pas. En attendant, moi je trouve ça vraiment dommage, d'autant que j'ai eu l'exemple cette semaine, j'ai découvert un podcast en faisant une recherche, je l'ai pas découvert par son nom ou par quoi que ce soit, j'ai découvert en faisant leur recherche sur du matériel, et en fait il avait fait le travail lui, alors vraiment texte de présentation très bien, et en fait il est même allé plus loin, c'est qu'il avait chapitré les parties, hein, chapitré chaque partie, pour que ça fonctionne sur YouTube et Spotify, pour qu'il y ait des chapitres à son podcast, et en fait j'ai retrouvé l'information par le biais d'un des chapitres qu'il avait inséré. Donc YouTube avait vraiment pris en compte son texte, et il avait vraiment l'identifié et avait même pris en compte les chapitres, les titres des chapitres, et c'est le titre du chapitre qui m'a amené sur son podcast. Donc ça marche, je veux dire, le SEO fonctionne sur l'histoire. Donc la question, c'est pourquoi certains ne le font pas. Là, c'est une vraie question. Moi, je sais que ça fait partie des choses que je travaille. Je fais attention un petit peu à essayer d'avoir plus de mots-clés, à essayer d'avoir un titre qui soit un peu plus parlant des fois. Voilà, donc c'est mon étonnement. Si vous, vous faites du podcast, si vous faites de la vidéo, parce que sur YouTube, c'est encore pire cette histoire-là, ne négligez surtout pas, ne faites pas cette erreur, ne négligez surtout pas le titre, la description. Les mots-clés que vous pouvez mettre, alors je vous dis pas les tags sur YouTube forcément, mais je vous dis vraiment les mots-clés dans la description, parce que vraiment là, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui le font pas, et le simple fait de le faire va vous amener déjà des personnes qui vont découvrir par ce simple fait-là. Donc faites-le quoi, faites-le, c'est-à-dire que ça va prendre un peu plus de temps à la publication, c'est pas le truc le plus fun, voilà, pas le truc le plus fun, mais je pense qu'en plus, vous pouvez vous faire aider par un truc comme ChatGPT va vous aider. Si vous lui donnez un peu un texte en disant bah, « réécris-moi ça », améliore un peu le copywriting et améliore un petit peu le référencement en disant « je veux être ciblé sur tel ou tel mot », vous devriez arriver en fait à avoir un texte de présentation qui soit un petit peu plus efficace, vraiment efficace. Parce que là, vraiment, c'est dommage. C'est dommage de faire des contenus qui sont probablement très intéressants. La personne dont je donne l'exemple, en fait, mettez le nom de l'invité dans son titre. Ne remettez même pas le nom dans la description de l'épisode. Et ne présentez même pas qui il est par rapport à des gens qui ne le connaîtraient pas. Donc, quelqu'un qui voit le truc, qui connaît la personne, dit « Waouh, chouette, je le connais. » Mais quelqu'un qui ne le connaît pas, elle ne sait même pas, en fait, si elle peut être intéressée par la personne. Voilà, c'est là où je me dis, là, il y a un truc qui est vraiment dommage, parce qu'en plus, elle a pas placé des mots-clés qui serviraient à la personne, hein, qui serviraient à présenter la personne, qui sont dans le champ sémantique de la personne, qui permettraient de ramener l'audience sur des thématiques. Donc voilà, c'est maintenant. Bon, comme vous entendez, ça me gratte un peu la gorge aujourd'hui, hein, je suis pas malade, mais non, ça gratte un petit peu la gorge. J'ai perdu l'habitude aussi d'enregistrer le matin, j'enregistre le matin aujourd'hui, samedi matin. Normalement, en fait, j'ai une semaine qui était un petit peu décalée. Ce qui explique aussi je change un petit peu mon organisation, et ça explique aussi que j'enregistre le samedi matin, et d'habitude je le fais plus. J'avais arrêté d'enregistrer le matin, et je me rends compte que le matin, eh ben, il faut que je chauffe un peu plus la voix que le reste de la journée. Maintenant, ma bonne pratique personnelle, en ce moment, c'est que je suis en train de regarder à nouveau certaines formations que j'avais achetées. Je me rends compte que j'ai des formateurs. J'ai 5-6 formations, il y en a certaines que j'avais regardées, j'avais appliqué certains trucs, et puis après je n'avais pas trop appliqué. Certains ont fait des mises à jour, ça aussi c'est appréciable. Et donc là je suis en train de regarder certaines formations que j'avais achetées, pour en fait refaire un point, pour dire bah tiens, il y a un outil que j'avais raté, il y a un truc que ça j'ai pas pris, ça serait une bonne idée ou quoi que ce soit. Donc je suis en train de refaire le point en fait là-dessus. Donc, il y a des formations sur, par exemple, YouTube, il y a des formations, alors, j'ai pas de formation podcast ou des choses comme ça, par exemple, mais des formations sur le copywriting, sur l'écriture, des choses que, sur lesquelles je peux aller piocher des éléments, justement, pour m'aider, à faire tout ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire, revoir un petit peu les structures, revoir un peu les textes de présentation, revoir un petit peu certaines idées qu'on pourrait avoir, par exemple, sur YouTube et tout, pour dire, bah, tiens, ce que je fais sur YouTube, comment ça pourrait aider les podcasts, comment ça pourrait aider aussi ma visibilité, ma marque personnelle. Voilà. Tout un tas de petites choses comme ça. Et ben, je suis en train de retravailler dessus avec des éléments que j'avais et puis aussi sur des formations, sur comment structurer les formations, comment revoir les pages de vente, comment présenter les choses. J'ai une formation sur laquelle je suis en train de réfléchir. Je suis pas, comment dire, hyper satisfait de l'angle pour l'instant. Donc c'est pour ça aussi que je suis en train de recreuser certaines formations que j'avais achetées sur justement comment positionner des formations, comment les réfléchir et tout. Je suis en train de les revoir, je suis en train de regarder à nouveau. Donc en fait, j'essaie de rentabiliser un peu mieux certains investissements que j'avais faits parce que je pense que j'ai raté des choses, parce que des fois on les regarde un peu rapidement, parce qu'il y a des trucs qu'on va pas jusqu'au bout, et parce que voilà, ça fait toujours du bien de se rafraîchir les idées. Et de même aussi, je le fais aussi sur certains livres, c'est-à-dire qu'il y a des livres, je reprends les notes que j'avais fait sur le j'ai pris sur le livre. Et un livre notamment que je reprends très très souvent, c'est Influence et Manipulation de Robert Cialdini, parce que dedans il y a toujours des petites informations. Et en parlant de mise à jour, j'avais vu qu'il y a une mise à jour de son livre qui a été faite. J'ai trouvé la médiathèque, elle n'est pas comment dire exceptionnelle, sa mise à jour dedans. En fait, il a mis des éléments qui viennent un petit peu d'internet, mais en fait il n'y en a pas beaucoup beaucoup, et c'est un petit peu décevant. Voilà. Et puis le livre, ça fait un livre un peu plus épais, faut les piocher un peu dans les mises à jour et tout. Il y a quelques encadrés par rapport à internet, des choses comme ça, mais je trouve que là ça mériterait en fait d'avoir plus de choses. C'est-à-dire qu'on pourrait il pourrait faire une nouvelle version de son livre qui est en fait sur influence et manipulation. C'est vraiment sur les stratégies, hein, pour amener les gens à nous faire confiance et tout. Comment on applique ça sur Internet? Je pense qu'il y aurait un vrai, vrai, vrai champ d'études qui serait vraiment intéressant. Parce que, en fait, c'est un livre qui est assez ancien, qui a été fait aussi par, sur des anciennes études, sur aussi des choses, du porte-à-porte, des stratégies en magasin. Et il le dit, en fait, hein, tout ce qui a été vu à l'époque marche aussi sur Internet. Mais en fait, il donne quelques exemples, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'exemples, en fait, il n'y a pas assez loin. Mais c'est toujours intéressant d'aller repiocher dans ses livres, d'aller retrouver quelques idées, de se dire, bah tiens, ce truc-là, je l'avais au fond, je l'avais oublié, et je l'ai pas appliqué. Ça, j'avais peut-être appliqué à un moment donné, j'avais au fond de ma tête et de mon cerveau, mais je le fais plus, et ça vaut le coup de retester. Donc c'est vraiment une bonne pratique. Si vous avez acheté des programmes, des formations, si vous avez des livres comme ça dont vous vous souvenez pas vraiment et autres, c'est regarder les notes, regarder, aller revoir, même si c'est en x2. Par exemple, il y a des vidéos que je revois en x2 parce que comme je les ai déjà vues, ça permet de rafraîchir certaines idées. Et puis des fois, il y a des petits outils qu'on a ratés, qu'on n'utilise plus et qui sont très pratiques. Maintenant, passons à une tendance que j'observe. La tendance que j'observe, en fait, c'est que j'ai vu quelques créateurs se lancer sur Patreon et sur Substack. Alors Patreon, normalement, c'est assez connu, hein. Vous savez, c'est un peu comme Tipeee. On est sur le format, c'est vous donnez une certaine somme d'argent tous les mois et vous avez pour soutenir un créateur, avoir des bonus. Bon, certains d'entre vous sont abonnés à mon Patreon. Moi, mes Patreons sont, il y en a un qui est fermé, celui qui est mes 42 est fermé. Mon Patreon perso est encore ouvert, mais c'est vraiment à la marge, hein. Voilà, c'est vraiment à la marge. Et puis Substack, vous savez, c'est un outil qui permet de faire de la newsletter, mais aussi un peu format blog, dans lequel on peut mettre du podcast. Mon podcast Podcaster Pro était hébergé sur Substack avec beaucoup d'avantages, et j'ai souvent dit que Substack était pour moi la plateforme la plus intéressante pour quelqu'un qui se lance, qui part de rien du tout là, hein, qui n'a aucun outil. Qui veut faire du contenu, qui veut faire un podcast, qui veut une chaîne YouTube à montrer, qui veut faire du mail, des newsletters, qui veut faire du blog, qui a aucun outil et tout, c'est l'outil peut-être le plus intéressant pour l'instant, parce qu'en fait, il permet de faire un site, il permet de voir avec quelques pages, il permet d'avoir un site avec un format blog, des gens qui s'abonnent par mail, et puis on peut mettre donc héberger du podcast, on peut relayer ses vidéos, et puis en fait, on peut mettre des tranches payantes dessus. Pour que mettre des options pour que les gens payent, en fait. Et donc on en revient un peu au principe Patreon. Vous payez pour me soutenir, vous payez pour avoir des suppléments, etc. La tendance que j'ai vue cette semaine, c'est que j'ai vu quelques Patreons surgir, remonter un petit peu, de gens qui lançaient des Patreons. Et puis j'ai vu aussi des personnes qui lancent des Substacks. Et donc deux trois personnes que je suivais plus ou moins de loin, ont lancé leur Substack. Alors, je pense qu'elles ont un peu la même personne qui les conseille derrière, parce qu'elles l'ont lancé de la même manière, même tarification. En tout cas, elles ont discuté du truc. Apparemment, pour une, ça fait beaucoup d'abonnés, même si on n'a pas le tarif. Hein. Autant sur Patreon, on arrive à avoir les sommes. Des fois, les sommes sont publiques. Là, sur Substack, on n'a pas la somme publique de combien de personnes se sont abonnées à telle offre. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu sur leur Substack. N'était pas annoncé, mais qui annonce un bon nombre d'abonnés. En plus, alors, quand vous avez des abonnés gratuits, en fait, en plus, Substack est gratuit, il faut dire le truc. Et Patreon aussi, c'est-à-dire, vous n'avez pas d'abonnement à payer. Et en fait, il prélève une partie, en fait, sur la somme. Donc, vous pouvez tester, j'ai envie de dire, ça vous demande que du temps. Donc, il y en avait un, par exemple, qui avait 4000 abonnés dessus, donc qui a 40 000 abonnés sur Instagram, qui a fait une vidéo de présentation, qui a fait des stories, qui a fait beaucoup de choses, et sans aucun contenu, en fait, les gens lui ont fait confiance, et certains même ont acheté, vraiment ont acheté, ont pris son abonnement annuel, etc. Donc, il fait une cinquantaine d'euros. Donc, je me dis, c'est intéressant. C'est vraiment une plateforme qui est intéressante et tout. Substack, je m'étais posé la question de Podcaster Pro, d'avoir une version payante de Podcaster Pro avec des conseils complémentaires, etc., autour du podcasting. Mais je m'étais aussi posé la question de me demander si le coût que ça, en temps que ça représente chez certains, et que ça représentait chez moi, en fait, si ça vaut vraiment le coup. Je l'avais dit, quand j'ai arrêté le podcast privé sur Patreon, c'est parce que ça représentait un temps de travail, en fait, qui était totalement décorrélé avec l'argent que ça me rapportait. C'est-à-dire que si vous gagnez beaucoup d'argent sur Substack et Patreon, bah faire des contreparties payantes et qui vous demandent du temps, finalement, c'est assez logique. Si vous faites des grosses contreparties avec qui vous demandent du temps, mais que vous avez 5 ou 10 abonnés, et donc que ça vous rapporte quelques copinettes tous les mois, et bah, je me dis qu'on peut très rapidement faire l'équivalent avec d'autres choses. Et ces autres choses, parfois, en fait, c'est de faire une vidéo YouTube de plus qui serait bien référencée et qui pourrait rapporter, parce qu'on a des vidéos qui rapportent 10, 15 euros chez certains, donc c'est pas du tout impossible. Ça peut être de faire des vidéos sur des produits avec des liens d'affiliation. Moi, des liens d'affiliation, il y en a certains qui rapportent 30 ou 40 euros, alors pas systématiquement, mais qui l'ont rapporté. Donc si on arrive à faire quelques liens d'affiliation de ce type-là, et ben des fois, ça peut rapporter quelques sommes. Et qui finalement permettent de nourrir une chaîne YouTube ou un podcast plus un lien d'affiliation sans faire du contenu plus, parce que finalement on nourrit plus sa chaîne principale. Et puis bien sûr, la question aussi, c'est, et je me suis posé la question pour deux de ces personnes que j'ai vu faire, je me suis dit, mais si elles avaient fait simplement une formation, c'est-à-dire une petite formation dans laquelle elles mettaient les conseils, elles mettaient, il y aurait pu avoir des recettes de cuisine, il y aurait pu avoir des choses comme ça, je me demande en fait s'il n'aurait pas gagné beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus en travaillant beaucoup moins. Et dont l'une de ces personnes notamment parlait beaucoup de burn-out, avait fait un burn-out, était en surcharge, était fatigué, en avait marre, avait failli arrêter son podcast, avait failli arrêter des trucs, ne faisait plus rien, etc. Des choses comme ça. Et qui, tout d'un coup, rajoute en fait un élément de contenu en plus. Alors, si les 4000 personnes qu'elle annonce sont des personnes qui payent, c'est jackpot, j'ai envie de dire. Parce qu'en payant 5 euros, on voit bien que ça fait 20 000 balles par mois, quoi. Mais je pense pas que les 4000 personnes payantes. Si derrière, ensuite, ça représente peut-être 1000 ou 1500 euros, et ben ça serait cool, et dans ce cas-là, ok, l'investissement, mais si par contre c'est juste quelques personnes qui sont abonnées et que ça représente quelques petites sommes, en plus c'est des personnes qui sont abonnées à l'année, donc ça veut dire qu'il y a un engagement sur l'année et tout, donc ne pas décevoir, arriver à tenir le rythme, faire une newsletter toutes les semaines, qui est assez riche en plus dans le niveau du contenu qui est annoncé et tout, et ben je me demande en fait si c'est bien le truc qui est le plus intéressant. Et là, j'en reviens, vous savez, sur ce que je disais toujours, sur cet équilibre entre créateur et entrepreneur. Des fois, notre côté créateur, il veut faire des choses, et puis le côté entrepreneur, il doit réfléchir à certaines choses. Je l'ai très bien expliqué pour mon côté pour Patreon, en disant, mon côté créateur, faire le podcast privé, il se régale. Le problème, c'est que le côté entrepreneur, il dit, oui, mais tu es en train de faire un podcast privé pour des sommes qui sont dérisoires, et qui finalement te prend 4, 5, 6 heures par mois, et 4 à 5, 6 heures par mois, ce sont des épisodes de podcast, c'est de la vidéo que je peux faire, en 6 heures, je peux faire une vidéo, facilement, enfin, je peux faire des vidéos en 1 heure à peu près, donc je peux faire plus de vidéos, je peux faire plus d'épisodes de podcast qui viennent nourrir mes objectifs, et je peux faire plus de posts sur les réseaux sociaux, enfin, Je pourrais faire plus de mails pour mes abonnés, je peux faire plus de formations, enfin je peux faire plus de choses en fait dans ce temps-là. Donc il y a cet équilibre-là. Surtout quand ça vient de personnes qui disent j'ai pas le temps, je suis surmené, j'en peux plus, je suis fatigué, etc. J'ai pas le temps de faire la promotion de ce truc-là. Rajouter la promotion pour autre chose, avec le travail ensuite qu'il y aura derrière pour nourrir autre chose, je me pose la question de l'équilibre. Et de me demander, en fait, c'est oui, ça paraît une bonne idée, mais je me demande à quel point ça peut pas devenir compliqué. Et d'autant plus, en fait, on a des bons exemples. Hein, c'est vrai que c'est tentant parce qu'on a des exemples de newsletters payantes sur Substack qui ont des gros chiffres. Hein, je pense dans les lettres dans la finance dont j'ai perdu le nom, mais Snowball, voilà. Snowball, où là, il a créé carrément un système avec des lettres, des sous-lettres, il y a des gens qui payent pour avoir des abonnements globaux, etc. Donc, c'est toujours, en fait, un exemple qui est toujours très intéressant. En fait, hein, Snowball, on se dit, oh, voilà, il gagne 200 000 euros par an en faisant de la newsletter sur Substack, des newsletters payantes, etc. On a d'autres exemples, hein, quelques personnes, etc., qui ont des comptes LinkedIn aussi, qui poussent un peu les choses et tout. Donc, on voit, on a chez certaines personnes, on voit hein, que ça marche. Faut toujours se rappeler qu'on est sur des bouts de pourcentage en fait, hein. Toujours l'histoire. C'est comme sur Patreon, on nous fait toujours miroiter sur Patreon quelques créateurs qui vivent de Patreon. En France, des créateurs qui vivent de Patreon, il y en a quelques-uns, mais ils sont pas si nombreux que ça, Et donc ils sont là depuis très longtemps. Hein. J'en ai vu un, ça fait presque 10 ans en fait qu'il est dans ce forme de type de financement, etc. Donc ça veut dire que il y a du un très long travail, qu'il y a des grosses audiences et qu'à côté de ça, bah on est souvent dans des clopinettes, hein, comme dirait ma grand-mère, comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire des bouts de trucs en fait où finalement bah on vient gratter des bouts de trucs et que le temps pour gratter quelque chose, ben bah, finalement il vient prendre du temps ailleurs, ou pire en fait, il vient nous prendre du temps de repos, du temps avec notre famille, avec, voilà, enfin voilà. Donc il y a un truc qui est pour moi à mesurer. Voilà, à mesurer. Si vous êtes tenté par ça, si vous avez aucune audience et que vous voulez lancer un Substack payant, mon avis, c'est un peu galère au départ. Il faut vraiment la jouer sur très long terme et partir d'abord sur du gratuit, créer l'audience, avoir des gens d'abord qui viennent, etc. pour ensuite arriver à les convertir et à trouver le côté marketing intéressant et trouver aussi l'équilibre, hein, vraiment l'équilibre, pour dire ça va me représenter tant de travail et combien à côté de ça je vais gagner d'argent si on fait un ratio entre ce que ça rapporte et le temps que j'y passe, on se rend compte que parfois, notamment pour certaines de ces personnes, en une consultation, probablement, ils auraient fait... parce qu'il y en a certains qui font des consultations avec des clientèles, ça se trouve en une ou deux consultations qui leur prennent moins de temps, ils arrivent à avoir plus de retombées, mais peut-être que je me trompe, donc ça sera à observer vraiment avec attention. Moi, dans un coin de ma tête, je me dis que pour l'une de ces personnes en tout cas, et peut-être même pour 2-3 personnes que j'ai vues, à mon avis, ça passera pas l'été. Voilà, c'est comme ça, c'est mon truc. Hein. Après, je me mouille pas, moi je sais de qui je parle. Je vois un peu les choses, et puis si je me trompe, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais c'est ma vision des choses, il faut faire attention un petit peu là-dessus. D'autant que moi je l'ai connu, hein. Donc c'est pour ça que je parle avec mon expérience. Maintenant, ma grande question, et en fait j'ai deux grandes questions pour terminer cet épisode, je vous l'avais dit, il y a deux grandes questions, vous allez me dire oh, encore, il se pose des questions là-dessus. Ma grande question c'est est-ce que je dois relancer des formations plus axées sur le business et notamment sur le podcasting? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, j'ai toujours cette, et c'est là le encore en fait, j'ai toujours cet aspect en dire, j'ai fait un gros pas en disant je vais faire du tour du sport, de la course, de la remise en forme et tout. Et puis, je fais moins de choses autour du podcast, etc. Sauf que le cœur de ce que je fais quand même, ce que je fais le plus dans ma journée, c'est quand même du podcast. Et en fait, il y a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux autour du podcasting. J'ai fait beaucoup de contenu sur le sujet. Le fait que mes stats augmentent et le fait que je sois plus visible, on me demande aussi comment j'ai fait, on me demande des conseils et tout. Et donc, j'ai eu des personnes en coaching l'an dernier sur le podcasting. Des offres autour de ça et tout. Mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Alors, j'ai quand même réactivé les lead magnets. Et les lead magnets ont quelques téléchargements en ce moment et tout. Mes formations, je pourrais essayer de les pousser. Je vais faire une petite mise à jour d'une ou deux formations. C'était un peu la question que je me posais. Est-ce que finalement, je ne devrais pas me dire que j'ai deux cordes à mon arc, hein, dans la, vous savez, dans la marque Bertrand Soulier. Et c'est là le encore, en fait, en disant, bah, finalement, dans cette histoire-là, j'ai toute la partie autour de Sam, et puis j'ai la partie sport, enfin Sam remise en forme, la partie sport, course à pied et tout, et puis j'ai la partie podcasting avec des sujets que je maîtrise bien. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que je maîtrise mieux que d'autres. Alors créer un podcast, je maîtrise. Créer une audience, je maîtrise. Gagner de l'argent et avoir des partenariats avec mon podcast, je maîtrise. Là, cette semaine, je suis content. J'ai eu deux confirmations avec des marques qui représentent eh ben, une bonne partie de mon chiffre d'affaires de l'année qui va venir, en fait, hein. C'est-à-dire que là, déjà, pour débuter février, février, en fait, a débuté avec la signature de deux partenariats, sur QN42 Sport Nutrition, qui, en eux-mêmes, par rapport à l'objectif qui est fixé avec la compta, me disent, ah bah, tiens, on en a fait quand même une bonne partie avec ces deux partenaires-là. Alors, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot après pour en avoir d'autres, pour aller en chercher d'autres, etc. Mais, ça, je sais faire. Hein, ça je sais faire, donc ça je peux en parler facilement. Par exemple, c'est aussi pour ça que je ne fais pas de vente de, je fais pas de formation sur comment créer une formation, parce que j'estime en fait que je n'ai pas masterisé, je n'ai pas maîtrisé le sujet. Voilà, masterisé, je sais pas si ça se dit. En fait, j'ai pas maîtrisé le sujet comme j'aimerais bien. C'est-à-dire que j'ai maîtrisé le côté oui, je suis capable de créer une formation, oui, j'ai des outils, mais je ne maîtrise pas assez bien pour moi la côté mise en vente, préchauffe, chiffre d'affaires qui va avec, etc. Sujet et tout, il y a des gens qui font bien mieux que ça que moi, et je pense qu'il vaut mieux que je renvoie sur les gens qui font bien mieux que ça que moi que le faire moi-même, tant que je n'ai pas atteint en fait un chiffre d'affaires qui me satisfasse par rapport à ces ventes de formation. Voilà, donc c'est assez clair là-dessus, sur le parcours et tout, parce qu'il y a des choses où pour l'instant je me dis j'ai des choses sur lesquelles je dois progresser là-dessus, donc je ne vais pas y aller. En revanche, créer un podcast de A à Z, enregistrer des interviews, travailler le SEO, travailler tout un tas de trucs du podcast, ça, oui, ça, je sais faire. Et donc, je me dis, j'ai quand même, dans ce secteur-là, j'ai quand même des potentialités à étudier. Et je me disais, j'en reviens sur ce que je disais sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on a différents positionnements entre les uns et les autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont positionnés comme des influenceurs, il y en a qui se positionnent comme des infopreneurs, vendeurs de produits et tout, les coachs et tout, et puis on pourrait avoir un peu aussi sur le côté documentation de ce que je fais. Si je documentais un peu tout ce que je fais au quotidien, je documenterais quoi ? Des choses autour de Sam, des choses autour du sport et des choses autour du podcast. Et en fait, c'est vrai que finalement, sur si vous voulez dire de redire toujours la même chose partout, eh ben, je pourrais utiliser un outil comme LinkedIn vraiment pour parler plus de ce que je fais dans le podcasting, de ce que je viens de vous parler là sur certains étonnements. D'ailleurs, il y a des trucs que je viens de vous dire que je ferai des posts sur LinkedIn pour en reparler et tout. Et donc, je me dis peut-être que je peux créer une audience autour de ça, en fait, vraiment autour de ça. Et dans ce cas-là, c'est peut-être qu'il y a des gens qui vont me poser des questions, en fait. Est-ce que j'ai un truc à proposer? Est-ce que je peux les aider? Comment je peux les aider? Qu'est-ce que je peux faire, etc. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur LinkedIn, d'ailleurs, en me disant, bah tiens, pourquoi tu proposes pas une formation sur ton logiciel que tu utilises toi? J'ai vu ta méthode là-dessus, ça m'intéresse et tout. Donc, ça veut dire que en parlant un tout petit peu, j'ai déjà quelques personnes qui pourraient être intéressées. Est-ce qu'il faut que j'en parle plus? Peut-être. D'autant qu'en plus, ça m'intéresse vachement. C'est-à-dire que accompagner des podcasteurs à se lancer, accompagner des gens pour se lancer, ça m'intéresse beaucoup. Et que la dimension mentale, par exemple, de préparation mentale, s'applique aussi au podcasting. Que la dimension Sam, parce que Sam, être en forme, c'est quelque chose que j'ai inventé aussi pour être en forme en tant qu'entrepreneur et créateur de contenu. Et ben, s'applique aussi justement pour ces créateurs. Donc, un programme autour de ça pourrait dire, bah oui, comment t'es en forme pour sortir tes podcasts toutes les semaines, pour avoir de l'énergie, etc. Tout ça, je l'ai. Et c'était même renforcé l'autre jour parce que j'ai un nouveau livre sur l'entrepreneuriat, sur comment être entrepreneur, comment être aligné avec ses valeurs, comment être un bon entrepreneur, comment durer et tout. Le premier chapitre démarre sur Sam, mais vraiment sur sommeil, alimentation et mouvement. Mais vraiment, en plus, c'est marqué pareil. D'abord, soignez votre énergie, soignez votre forme et tout. Je dis là, on est vraiment pile poil. Et ça me rappelle qu'à une époque, j'avais des projets comme la méthode Sam pour les entrepreneurs, Sam pour être en forme et tout, pour qu'un entrepreneur soit en forme et qu'il ait l'énergie pour entreprendre. Tout ça, en fait, c'est des bribes de choses, des projets que j'avais mis en place, que je n'ai pas, sur lesquels je suis pas allé jusqu'au bout. Et en fait, comme tout le temps, en fait, avec mes hauts, mes bas, mes vagues et tout comme ça, je me dis, tiens, est-ce que ça serait pas le moment de repositionner certaines choses avec, pour moi, des petits produits, ça peut être des coachings, des choses comme ça, qui pourraient se faire et qui seraient intéressants et qui, sur le long terme, peut-être, pour moi, garderaient, en fait, comment dire, m'intéresse sur le long terme. C'est-à-dire que ça fait 7-8 ans, je fais du podcast. Je trouve qu'il y a, c'est un format qui est génial. Et en plus, je me dis, c'est, il y a un truc qui est fou. C'est une autre réflexion que je m'étais fait l'autre jour. C'est que il y a des podcasts, quand on voit l'audience d'un seul épisode de podcast, on se dit, en faisant 3000 écoutes, il est numéro 1 de sa catégorie. Comparé à YouTube, YouTube, il faut, pour un numéro 1 d'une catégorie sur YouTube, enfin, c'est même impossible parce que ça n'existe plus, mais il faudrait des milliers d'écoutes, de vues, des centaines de milliers, quoi. On peut se dire qu'en fait, sur le podcast, l'audience, on est très très loin de ce qu'on a sur d'autres médias en fait. Donc pour moi, il y a une croissance encore qui est encore très forte, qui est potentielle. On le voit, il y a beaucoup de podcasteurs qui se lancent. J'ai encore vu l'autre jour une discussion avec une blogueuse, influenceuse, blogueuse plutôt, qui se lance, qui veut lancer du podcast. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le truc. Il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a plus de podcasteurs que de gens qui pourraient écouter. C'est faux, bien entendu, mais ça veut dire qu'on a le sentiment en fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le podcast. Et moi, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent accompagner des gens qui font du podcast et qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le podcast et qui se lancent avec des offres comme ça et tout. Donc des gens qui ont 10-15 épisodes de podcast derrière eux et qui font des offres podcasting. Des gens qui ont des audiences toutes petites, qui font des offres podcasting très grosses. Et puis d'autres gens aussi qui ont des audiences intéressantes et qui proposent des formules pour développer leur podcast et pour développer la monétisation de leur podcast, qui demandent un boulot qui est juste extraordinaire à faire parce qu'il faut faire des contenus en plus, faire des vidéos en plus, faire tout un tas de choses en plus qui est énormissime. Et quand vous n'avez pas le temps, quand vous avez des enfants, quand vous voulez garder du temps pour faire du sport, pour dormir, pour être en forme, pour aller faire une vie sociale et tout, je pense que ce n'est pas possible. Et certains de ces créateurs d'ailleurs disent oui, mais moi je travaille 80 heures par semaine et je fais ça et je fais ça et tout. Et ils veulent vendre des méthodes en disant vous voulez avoir mes résultats, voici la méthode que j'ai. Moi j'ai pas envie. Voilà. Donc je me dis qu'il y a un truc. Il y a un truc. Maintenant, il faut trouver le truc. Il faut trouver le déclencheur. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est le grand truc, c'est que ça me taraude cette histoire. C'est-à-dire que ça me réveillerait presque la nuit. C'est-à-dire que le matin, j'y pense. Et c'est dire le truc, c'est mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ce truc-là et tout, comment, etc. Donc, peut-être, si vous écoutez cet épisode, peut-être vous, ça peut vous faire un tilt en disant il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Et puis, pour terminer, ma dernière grande question, j'ai deux grandes questions cette semaine, et là, celle-là, elle me taraude aussi, c'est ce podcast doit-il changer de nom? Ouais, alors, pour refaire l'histoire du podcast, au début, il s'appelait Votre Coach Web, ensuite, il s'est appelé Crée ta vie, la vie créative, et puis maintenant, donc, il s'appelle comme ça. Cheveux blancs et idées longues. Cheveux blancs et idées longues, en fait, je trouvais que c'était rigolo. Mais en fait, je me demande si c'est pas une grosse connerie au niveau du nom, au niveau du référencement. D'ailleurs, je le dis, hein, j'ai modifié un petit peu des choses autour du podcast. Notamment, j'ai rajouté un sous-titre qui s'appelle « Entreprendre sur Internet après 40 ans ». Pourquoi ? Parce que je viens exactement de vous expliquer le truc. C'est une question de SEO, en fait. C'est-à-dire que le nom en lui-même, c'est drôle, mais en fait, pour le SEO, c'est pas le meilleur truc. C'est-à-dire que quand vous regardez les catégories des podcasts, etc., comment quelqu'un pourrait trouver ce podcast? S'il trouve le nom, il aura jamais idée de savoir de quoi je parle dedans. Donc, je me demande, en fait, si un truc, entrepreneur après 40 ans, je sais pas si c'est le bon truc, mais daron, entrepreneur, solopreneur, ou je sais pas quoi, enfin, un truc qui soit plus dans l'esprit, en fait. Voilà, je sais pas, enfin un truc, peut-être un autre mot, mais en tout cas c'est une vraie question, c'est est-ce que ce podcast doit changer de nom, notamment donc je dis pour des raisons SEO, pour un peu avoir un nom aussi qui indique plus de quoi je parle, etc. Peut-être être plus, et là, plus entrepreneur, en fait, vraiment d'être plus entrepreneur, parce qu'en fait, on peut avoir des noms créateurs, et en fait, il y a beaucoup de podcasts qui ont des noms très créateurs et tout, mais avoir un nom plus entrepreneur pour être dans un domaine où, en fait, il serait plus centré sur vous amener, pour ceux qui sont intéressés, sur mes offres à vendre, sur mes coachings, etc., entrepreneuriaux. Et moi, en fait, créateur, en disant, je vais le monétiser par de la pub, etc. Le volume d'écoute de ce podcast, de tous les cas, ne rapporte pas grand-chose en pub. Je peux vous donner le chiffre, même d'ailleurs, c'est comme ça, vous allez voir à quel point vous savez que je ne le fais pas pour l'argent. Je vais vous donner un chiffre. Alors, je suis sur mon ad manager. Je vais regarder, je vais vous donner le chiffre pour janvier, parce que comme ça, vous aurez le chiffre. Ce podcast a rapporté 5,76 € en publicité directe. 5,76 €. Donc, vous voyez que c'est rien. Dites-vous que le podcasting doit me rapporter dans les... on va dire en chiffre d'affaires, j'ai pas fait le bilan total, mais entre les partenariats et tout, si on est à 16 ou 17 000 euros de chiffre d'affaires avec le podcast... 5,76 €, alors sur janvier, hein, attention, dans même fois 12, ça ferait 60 €, 70 €, il y a au maximum 100 €. C'est pas joyeux, enfin je veux dire, c'est pas lui qui me fait gagner de l'argent, hein, soyons honnêtes. De même que des projets comme, par exemple, à l'époque, Podcaster Pro me rapportait 1 €. Vous voyez, donc ça rapportait rien. En 2023, si je regarde, je suis en train de regarder, certains podcasts comme Kilomètre 50 rapportaient 2 € par mois. Enfin voilà, donc c'est vraiment des chiffres qui sont tout petits, et qui sont très, très, très loin de ce que peut rapporter Kilomètre 42 et Sport Nutrition. Donc c'est pas pour l'argent, hein, directement, on en revient sur ce côté entrepreneur et tout, mais n'empêche que moi j'aime beaucoup ce podcast, je dois vous le dire, et puis je sais que vous m'envoyez des messages pour me dire « Ah mais pourquoi il sort pas cette semaine ?» etc. Alors je dois vous le dire, il est pas dans le top des priorités, c'est-à-dire que rappelez-vous déjà que le mot priorité normalement n'est qu'au singulier, donc il n'est pas dans le top. Déjà, c'est pas une priorité, donc il n'est pas dans le top, et donc dans l'organisation, quand il y a des trucs qui doivent sauter, c'est vrai que généralement c'est lui qui a une tendance en fait à glisser un petit peu vers le fond de la liste, pour diverses raisons. Et je m'étais posé la question d'ailleurs si je devais pas le faire en marchant des fois ce podcast, parce que quand je vais marcher dans la semaine un peu tous les jours, qu'il y a des jours où je vais marcher pour ça, pour prendre l'air, et que c'est de plus en plus le cas avec les beaux jours qui vont arriver et tout. Je me demandais même si je devais pas le faire en marchant. Ça, vous donnez mes réflexions et qu'il redevienne en fait finalement format parler marché, comme a été en fait Nouvelle Vie à une époque. Lui aussi, hein, qui était Nouvelle Vie, qui avait une belle audience aussi, mais qui pareil, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, ça fait partie des projets qui finissent par un petit peu être relégués, tout simplement parce que Kilomètre 42 a pris beaucoup d'essor, parce que Sport Nutrition aussi développe. Voilà. Donc, il y a une vraie question, une vraie question autour de ça, qui est sur le format de ce podcast-là, qui est aussi sur le nom, sur est-ce que je dois supprimer le jeu de mots, est-ce que je dois avoir un nom plus facile, un truc plus évocateur. Une vraie grosse réflexion, et qui en même temps, vous voyez, cette réflexion-là devient intéressante, parce que une fois que cette réflexion est faite, le but du jeu, c'est de se dire, bah, tiens, comment le replacer, dans quelle catégorie le placer, comment mieux le placer, comment qu'il soit plus facile à trouver, plus visible et tout. Et bah, ça fait encore quelque chose qui vient nourrir ce que je disais sur l'offre que je peux proposer, sur comment je peux aider. Et je me disais, en fait, je pourrais remplir mon catalogue de petites formations qui sont assez courtes, qui fassent 1 ou 2 heures, sur des points très précis, sur rebooster, relancer un podcast, etc. Ça, je sais faire. Travailler le SEO de son podcast, c'est des formations qui peuvent faire 1 heure ou 2 heures, qui seraient assez courtes, très pointues sur des sujets, et qui, en fait, avec mon expérience, peuvent être faites assez rapidement et qui, je pense, peuvent remplir des vrais questionnements, des vraies problématiques, parce que j'ai pas envie de faire des gros programmes, vous savez, des programmes signature et tout, et des grosses vidéos et tout dans tous les sens, ça j'ai pas envie. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de cette réflexion et tout qui est là-dedans, parce que je crois, et là c'est ma conclusion en fait, quand vous êtes un peu multi comme moi, hein, multi-casquette, multi-tout ce que vous voulez, la difficulté, c'est de se concentrer sur un seul sujet et se dire, ben, finalement, faire une croix, en fait. La question, c'est plutôt de dire comment je m'épanouis, voilà, comment je m'épanouis, même si je sais que c'est pas la méthode la plus facile, d'avoir, en fait, un peu ces deux cheminements les uns à côté des autres. Je me dis qu'en fait, c'est moi ce qui, pour l'instant, me nourrit le plus, me permet aussi de me tranquillise le plus en fait dans ma tête, voilà, je dois le dire aussi. Les deux se nourrissent l'un l'autre, hein, je vous le dis, parce que Sam est venu finalement d'un projet annexe par rapport à ce qu'était votre coach web, sur comment est-ce qu'on est en forme en tant que créateur de contenu. Et donc, j'invente la méthode SAM qui se développe voilà, un petit peu. La course à pied était aussi un petit peu dans cet esprit-là. Et en même temps, tout ce que je fais sur la course, en fait, vient renforcer le côté podcasting et tout. Donc, voilà, quand on est un peu dans ce truc coincé, je pense qu'il faut se dire, au lieu de forcer, de dire je vais faire plus que ça et tout, et que ça contrainte, qu'il y ait une contrainte, de dire est-ce que finalement, de temps en temps, je pourrais pas remettre une petite dose, avoir des projets sur un côté, sur un autre. Je le vois comme ça. En tout cas, je vous laisse vous me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez un petit peu les choses. Si vous avez des idées de nom d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous trouvez que ce nom est bien, dites-le. Mais si vous trouvez que ce nom est totalement débile, dites-le aussi. Hein. Si vous trouvez que Cheveux Blancs Idées Longues est un nom qui est totalement débile, qu'il faut absolument que je l'enlève, dites-le. De toute façon, changer un nom, c'est rapide. Changer la vignette du podcast, c'est assez rapide et tout. Donc, n'hésitez pas. Ne prenez pas de gants. Allez-y, franco et tout. Si vous êtes encore là, de toute façon, c'est que vous me supportez suffisamment pour arriver jusque-là et me dire franco ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des retours, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, parce que comme ça, je peux répondre à des questions et tout. Ça fait des épisodes qui permettent aussi de répondre à vos problématiques directement. Et passez une belle journée, un bon week-end si vous écoutez cet épisode pendant le week-end, une belle semaine dans tous les cas, et on se retrouve très très vite. Ciao ciao les créateurs.